Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Il est 13h passé de 4 minutes. Nous sommes le lundi 9 janvier 2023. En première partie d'émission, la base viendra remettre les pendules à l'heure. Dans quelques instants, vous les entendrez. Pio Gérardin de l'association RL sera avec nous pour parler des ateliers mis en place autour de l'économie sociale et solidaire. Vous l'entendrez aussi. À 13h30, ce sera l'heure du journal régional. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons de pommes de terre avec Joël. Retrouver l'autonomie vévrière en 2023 pour la région Nouvelle-Aquitaine avec ses 64 000 exploitations agricoles et sa grande diversité de production. C'est le sujet de la chronique en Limousin qui sera à 13h50. Et puis à 13h55, Isabelle, aka Miss Météo, sera avec nous au rendez-vous pour nous parler du temps de demain. Voici le programme de l'heure à venir. Vous êtes ici sur Bram FM. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et en direct. Et je l'annonçais dans l'introduction pour bien commencer cette émission et cette semaine, la base est avec nous pour remettre les pendules à l'heure, on les écoute.
La base. Salut à tous, c'est Mathie et Jeanne du planning familial de Tulle. Nous revoilà pour notre chronique mensuelle féministe et engagée. Saviez-vous qu'il existe une page Wikipédia qui s'appelle « Pastiche, une femme ». La blague de cette page est d'avoir fait qu'une femme devient un individu à part entière. Ça démonte et ridiculise le fait de parler de « la femme ». On peut y lire l'extrait suivant. Une femme est... une journaliste, dirigeante d'entreprise, chimiste, diplomate, économiste, évêque, rabbin, imam, physicienne, sportive de haut niveau, directrice sportive, pilote de chasse, brasseuse, ouvrière, autrice de bande dessinée, footballeuse, handballeuse, chef d'orchestre, DJ, directrice de musée et femme politique, possédant au moins une vingtaine de nationalités. Son activité scientifique lui a valu d'être récompensée par 5 prix Nobel, pertinence contestée, de chimie et une médaille Fields. Elle est également meilleure ouvrière de France.
Merci à ce collectif féministe d'avoir créé cette page pour rendre compte que, dans les médias, les femmes sont encore actuellement réduites à leur genre. Et elles sont parties de titres piochés dans les médias comme par exemple, j'ouvre les guillemets, une femme nommée secrétaire générale de la FIFA pour tourner la page. Dans le JDD du 14 mai 2016.
La place d'une femme est à la chasse, selon une étude du Nouvel Obs, 5 novembre 2020.
Le premier coronavirus a été découvert par une femme en 1964 sur CNews.fr le 18 avril 2020.
Danemark, une femme Premier ministre pour la première fois, elle, 2011.
Les femmes n'ont pas le même traitement médiatique que les hommes. Pour preuve, nous nous sommes appuyés sur une étude du CSA basée sur la représentation des genres dans le traitement du Covid-19.
Pour exemple, lors d'interviews, les professionnels de santé ont été bien moins présentés que leurs confrères. C'est-à-dire, pour la présentation complète, nom, prénom, fonction, il y a 58% d'hommes pour 42% de femmes. Pour la présentation partielle, fonction ou nom, il y a 37% d'hommes pour 63% de femmes. Et enfin, quand il n'y a pas de présentation du tout, il y a 34% d'hommes pour 66% de femmes.
Et on continue avec des chiffres intéressants. Les femmes représentent 19% des sources d'expertise, alors que 38% sont interrogées dans les médias pour parler de leur expérience personnelle. Dès que c'est de l'expertise professionnelle, on demande à des hommes. Et dès que c'est pour des témoignages personnels, là, on demande à des femmes. Et toujours durant le Covid, les femmes étaient présentes à 40% à la radio, mais n'avaient que 36% du temps de parole.
C'est étrange, car aujourd'hui, 60% des diplômés, eux, sont des femmes. Et pourtant, les médias continuent à interroger massivement des hommes à 82% quand ils ont recours à des experts.
Ceci est dû à l'image genrée des femmes et à une réalité atterrante qui montre que l'évolution est lente. « Vous ne pouvez pas être ce que vous ne voyez pas », a déclaré Mary Wilson, une actrice américaine.
Les femmes sont renvoyées à la sphère privée, rassurante, intime, témoin de son expérience personnelle, et les hommes, eux, sont renvoyés à la sphère professionnelle, carriériste et d'expertise. C'est encore l'image binaire du XXe siècle qui subsiste en filigrane. Les femmes sont renvoyées à la sphère privée et les hommes à la sphère publique. Nous vivons dans l'ombre et eux à la lumière.
Il y a toujours un plafond de verre dans les postes à pouvoir et dans les universités qui fait que les femmes ne sont pas nombreuses à atteindre les postes à haute responsabilité, comme par exemple dans la recherche scientifique où elles représentent un tiers du personnel de recherche et un quart seulement des chercheurs. Ceci combiné au fait qu'elles souffrent souvent d'un syndrome de manque de légitimité, qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur, fait que les médias veulent faire intervenir un expert pour faire intervenir un expert, il est plus facile de faire appel à des hommes et c'est plus difficile de faire appel à des femmes. Ça demande plus d'efforts et c'est pas forcément ce qui est fait.
À l'inverse, pour parler des questions posées par les journalistes aux femmes qui atteignent malgré tout la possibilité de parler à la radio alors qu'elles sont dans des postes à pouvoir, les questions sont plus bêtes. Elles sont expertes, mais on leur demande quelle est leur morning routine, par exemple. À quel moment on les prend réellement au sérieux pour ce qu'elles font et non pas pour leur représentation de ce que doit être ou dire une femme. Dernièrement, Alison Chassagne a interviewé des hommes avec des questions qui sont habituellement posées aux femmes. Et ça donne ça.
Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires, parce que ça a dû en étonner plus d'un.
Non, en fait, je ne me pose pas cette question-là.
Vous trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière ?
Pas trop, en 2022. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est pas évident.
Et là, si vous pouviez vous adresser à des jeunes hommes qui pensent même pas à se lancer dans ce genre de carrière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
Je m'adresse jamais qu'aux jeunes hommes, je m'adresse aux jeunes gens.
Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur ?
Je doute. Pourquoi ? Non, je doute pas.
Édifiant.
C'était un extrait, hein, c'était un extrait de cette émission qui est retrouvée en intégralité sur YouTube, du coup.
Oui, ouais. Il faut aller voir. Les questions.
Ici, le titre, c'est Et si on posait les mêmes questions aux hommes qu'aux femmes, ouais, je
voilà,
crois.
C'est ça. Mm-hmm. Et ça a été interviewé par Alison Chassagne, et c'est vraiment édifiant.
Et cette fois-ci, on ne terminera pas par une poésie, mais par un extrait encore une fois atterrant, mais là des années 50. Car en cherchant avec Mathie dans les archives de l'INA, on est tombé sur une petite pépite plus qu'édifiante sur la vision de, j'ouvre les guillemets, la femme au volant. Et on dit bien ça de manière ironique.
Monsieur, vous êtes un conducteur parisien. Voulez-vous nous dire, pour les actualités françaises, ce que vous pensez de la conduite de la femme au volant ?
Ah, mon Dieu, monsieur, moi j'aime les femmes partout, au volant ou ailleurs. Insémée, la mienne, je viens de lui acheter une petite voiture de 1 400 000 francs.
Elle y tient beaucoup. Ça fait 8 jours qu'elle l'a. Elle n'a pas encore perdu la clé. J'en reviens pas. Il y a un starter, c'est si pratique. Ça me coûte 20 litres au 100, oui, je sais. Le rétroviseur, ça lui rappelle son cabinet de toilette. La boîte à gants, son armoire à linge. Elle va vite, bien sûr, parfois.
Elle va faire les ménages, non ?
Mais quand les vitrines le méritent, elle sait prendre son temps. D'ailleurs, elle conduit si bien que tout le monde la regarde.
Ça, c'était une archive INA que vous avez aussi trouvée sur YouTube. Ça s'appelle La femme au volant. Ouais. Et ça date de 1959, je crois.
C'est ça. Ouais.
Merci. Merci beaucoup, Mathie et Jeanne, d'être venues nous faire cette superbe chronique sur la femme. Vous avez proposé comme titre de musique pour clore votre chronique La femme, le groupe La femme, exclusivement d'hommes d'ailleurs. Et nous écoutons tout de suite le titre Disconnexion. Merci à toutes les deux, on se retrouve le mois prochain. Vous vouliez redire quelque chose ?
Oui, peut-être juste, encore une fois,
l'adresse et le numéro de téléphone du planning familial de Tulle. Alors, il y a une permanence tous les mercredis après-midi de 14h à 18h à l'avenue Charles de Gaulle, numéro 2 à Tulle. Le numéro vert sexualité, contraception, IVG, c'est le 0800 08 11 11. Et le numéro du planning, c'est le 07 69 46 85 18.
Vous êtes ouvert tout le temps ?
On est joignable tout le temps. On peut recevoir les gens pour un entretien sur rendez-vous. Mais sinon, il y a la permanence le mercredi après-midi.
Et rappelez de quoi on peut venir parler au planning familial.
De sexualité, contraception, IVG, LGBT, harcèlement, de tout ce qui concerne l'intime.
L'extime. Merci, merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve le mois prochain.
Et dans quelques instants, on poursuit l'émission avec Aude Gérardin qui vient nous parler d'un atelier pour entreprendre autrement. Pour l'heure, on l'a dit donc, c'est l'heure d'écouter La Femme. A tout de suite, vous êtes sur Bram FM.
Mais où va le monde ? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Je n'ai plus l'estime pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin. Très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui c'était une belle histoire, pour finalement taire mon regard foudroyé. Sans me retourner, je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. Mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Et moi,
Vous êtes ici sur Bram FM. Bonjour Aude Girardin.
Bonjour.
Vous êtes accompagnatrice sur l'incubateur Rhizome, proposé par l'association RL, qui vise à accompagner les porteurs de projets en économie sociale et solidaire. Et vous êtes aussi animatrice du programme Entreprendre la ruralité, les 23 et 24 janvier prochains à Saint-Germain-l'Yvergne. Dans vos locaux, vous proposez un atelier, l'atelier Entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet atelier, Aude ?
Oui, donc c'est un atelier donc qui est proposé pour toutes les personnes qui se posent la question, qui ont déjà une idée d'activité, potentiellement donc en économie sociale et solidaire, et qui permet en fait de venir brosser, on va dire, un petit peu toutes les étapes par lesquelles on va potentiellement passer si on monte son activité. Et c'est aussi un atelier qui permet de vérifier en fait qu'on a effectivement bien envie d'entreprendre de cette manière-là.
Qu'est-ce que vous entendez par entreprendre dans l'économie sociale et solidaire ?
Alors d'ailleurs, on pourrait plutôt dire entreprendre en économie sociale et solidaire. En fait, c'est des formes d'entreprendre où on va être sous statut collectif. On va être plusieurs à vouloir monter une activité et ce sont des structures qui sont sous forme associative, coopérative, fondation, voilà, donc vraiment qui vont avoir un objet social qui est assez enfin même pas assez, qui est très présent en fait dans le projet de base.
Quel est le but donc de cette journée et comment va-t-elle se dérouler ?
Alors donc sur ces deux jours, on balaye, donc il y a un partenaire qui intervient la première partie de matinée, on va dire, Carl Courgneau de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui lui vient présenter vraiment dans les grandes lignes ce qu'est justement, qu'est-ce qu'on entend derrière l'économie sociale et solidaire, parce que c'est un mot assez valise et fourre-tout, et des fois on ne sait plus vraiment ce que c'est. Donc lui vient vraiment sensibiliser sur les grands principes de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, la majorité on va dire, de ce qui est vu pendant les deux autres jours, c'est vraiment de la méthodologie de projet, donc sur la construction, c'est-à-dire toutes les étapes par lesquelles on va passer si on monte son projet de cette manière-là.
Quelles sont les étapes, justement, qui sont à prendre en compte lorsqu'on se lance dans une économie sociale et solidaire ?
Elles sont assez similaires au final à tout type de projet, on va dire. C'est-à-dire qu'on va vraiment passer par... En général, on a une idée dans un coin de sa tête. Et ensuite, ça va être de définir son offre, de faire son étude de l'environnement, c'est-à-dire vérifier qu'il y a bien un besoin, qu'on peut trouver des financements pour ce besoin-là. On va définir son modèle économique. Ça, c'est un terme qui fait souvent peur, mais en fait, toute structure a un modèle économique. Il y a aussi... Là, c'est très important dans la partie économie sociale et solidaire, puisqu'on est en collectif, c'est aussi l'organisation humaine. Qui va faire quoi ? Qui va porter quoi ? Il y a évidemment la définition des statuts, le choix de ces statuts. Est-ce qu'on a envie d'être en association, en coopérative, etc. Et donc, c'est à peu près, on va dire, ça, c'est les très grandes étapes, pour ne pas rentrer plus dans le détail, mais par lesquelles on va passer.
Alors, vous parliez justement des mots qui font peur. Et là, dans ces deux journées, l'atelier Entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, vous proposez de parler un langage commun aux partenaires de la création d'entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Aude Girardin ?
Oui, en fait, on a intégré ça dans l'atelier parce que quand on a un projet, souvent avec des financements publics, qui est attenant, on va dire, au fait d'être en économie sociale et solidaire, on va présenter son projet à énormément de partenaires, on va aller les solliciter. Et on s'est rendu compte que parfois, les porteurs de projets ne savaient pas valoriser ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, c'est juste apprendre à formaliser, on va dire, et à savoir valoriser correctement ce qui est imaginé. La spécificité aussi de cet atelier-là, c'est que ce n'est pas uniquement de la théorie. Il y a énormément de temps de travail, en fait, pour les porteurs de projets sur leur projet ou sur leur idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aborde justement une de ces fameuses étapes, il y a un temps de travail voilà, qu'on définit ensemble, où les personnes vont plancher, écrire, en fait, sur toutes les informations qu'elles ont déjà glanées ou imaginées, que ce soit sur leur étude de l'environnement, sur les modèles économiques, sur les potentiels partenaires. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des temps d'échange ensuite, c'est-à-dire il y a de la mise en commun entre les équipes et des retours qui sont faits les uns les autres sur les bons tuyaux, sur comment on pourrait améliorer, sur des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Donc c'est vraiment un atelier où on n'est pas uniquement dans le fait de recevoir du savoir, on va dire, ou de la théorie. Il y a vraiment beaucoup de temps de construction et d'échange aussi. Et cette mise en réseau, je pense qu'elle est aussi vraiment très importante quand on est dans la phase de construction, d'être avec d'autres personnes qui sont un peu dans le même bateau.
Et aussi de ne pas repartir à zéro, mais de repartir à partir des recherches qui ont déjà été faites par les porteurs de projets.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Dans les ateliers proposés, il y a aussi de sensibiliser aux principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire et ses principales formes juridiques. Est-ce que vous pouvez nous donner les formes juridiques possibles ?
Oui, donc les formes juridiques, il va y avoir donc les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, et les entreprises avec un agrément ESUS, qui est un agrément pour les entreprises qui ont vraiment, pareil, une dimension sociale assez forte et qui coche certaines cases, entre guillemets, qui peuvent l'obtenir.
Et puis, vous proposez aussi de connaître les compétences indispensables à la vie de la structure qui portera l'activité. Quels sont les risques si on ne connaît pas assez ces compétences ?
Mais il y a une grosse différence, en fait, entre être salarié dans une structure et ensuite... avoir toutes les casquettes, parfois d'employeur, parfois de gestionnaire. Et donc, comme on n'est pas habitué à ça quand on bascule, on va dire, de l'un à l'autre, pour nous, c'est vraiment important de sensibiliser pour qu'il n'y en ait pas qui soient laissés de côté. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que être employeur, c'est loin d'être une évidence. Gérer l'argent, c'est loin d'être une évidence aussi pour tout le monde. Donc, on essaye de vraiment sensibiliser à toutes ces casquettes, entre guillemets, qui vont être portées. Et il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit mise de côté.
La participation à cet atelier est libre, me semble-t-il, Aude ?
Oui, tout à fait. Elle est gratuite puisqu'elle est prise en charge par le biais de financeurs qui nous permettent d'avoir cet incubateur-là. Donc, en l'occurrence, l'Union européenne, la région Nouvelle-Aquitaine et la Caisse des dépôts.
Mais l'inscription est indispensable auprès du secrétariat de l'association. Est-ce que vous pouvez redonner le numéro de téléphone et le mail afin de vous contacter pour s'inscrire ?
Oui, donc le numéro, c'est le 05 55 29 00 50. Et l'adresse mail, c'est corezrl, tout attaché, @gmail.com.
Merci beaucoup, Aude Gérardin. Je rappelle que vous êtes accompagnatrice sur l'incubateur Rhizome, proposé par l'association RL, qui vise à accompagner les porteurs de projets en économie sociale et solidaire. Et vous êtes animatrice du programme Entreprendre de la ruralité les 23 et 24 janvier prochains à Saint-Germain-l'Auvergne, dans vos locaux. Vous proposez l'atelier Entreprendre dans l'économie sociale et solidaire pour accompagner au mieux les porteurs de projets. Merci beaucoup d'avoir été à l'antenne de Bram FM.
Merci.
Des codes et des cases et des codes, et des cases et des codes et des cases déphasées, et des codes et des cases et des codes, et des cases et des codes et des cases déphasées. T'as fait de ta case, je sais plus qui t'es. T'aurais pu la prendre au cas où, pour l'occasion. Alors, qu'est-ce que t'as fait de ton cadre, de ta condition? Si tu te la jouais plus carré, tu te ferais des ronds. Alors, qu'est-ce qui t'arrive dans ta case? Y'a des cassures, dans ton cas c'est sûr, les cadres sont tout cassés. c'est pas très carré tout ça. On peut pas caser ton corps. Ta peinture est belle, tu devrais l'encadrer. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Alors, qu'est-ce que t'as fait de ta montre? T'es quasiment viré. T'as pas vu le temps filer sur le cadran. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Plus personne ne peut t'encadrer. Case départ ou quart désespéré. Mais caser le hasard, l'amour, les rêves, les émotions. Tout caser en tout cas, on en a toujours l'occasion. C'est pas très carré tout ça. On peut pas caser ton cas. Ta peinture est belle, tu devrais l'encadrer. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées.
Mathéo Langlois avec le titre Décodé. Vous êtes ici sur Bram FM. Dans quelques instants, nous poursuivons notre émission en musique. Isabelle viendra nous faire découvrir un titre de son choix. Et Joël nous parlera de pommes de terre. Je ne vous en dis pas plus, il est 13h passé de 32 minutes. C'est l'heure du journal régional sur Bram FM.
L'actualité en Limousin et Périgord. Le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Lundi 9 janvier 2023, c'est une semaine pluvieuse qui s'ouvre et qui prend la suite d'un dimanche très humide. Le département de la Corrèze était même en vigilance jaune pluie-inondation hier. C'est probablement les pluies incessantes d'hier après-midi qui sont à l'origine d'un accident sur l'autoroute 20 à hauteur de Boisseuil en Haute-Vienne. Les deux occupants du véhicule d'une soixantaine d'années ont été légèrement blessés et transportés au CHU de Limoges pour quelques examens de contrôle. Toujours en Haute-Vienne, samedi matin, un octogénaire a perdu la vie dans un accident de la route sur la commune d'Oradour-sur-Vair. Pour le moment, on ne connaît pas la cause de la mort. Les pompiers arrivés sur place n'ont pu que constater le décès. Une fin de semaine dernière qui fut agitée pour l'avenue Foch de Brive. Un habitant visiblement agité a dû être interpellé. Il est même interné à l'hôpital de Brive depuis. Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi. Un homme de 37 ans vivant au quatrième étage d'une résidence a vidé son logement par la fenêtre, des vêtements jusqu'au canapé, frigo ou ballon d'eau chaude. En s'écrasant, les meubles ont causé des dégâts et même un début d'incendie sur un toit-terrasse. Le temps de son interpellation, les riverains ont dû être évacués. Au final, l'incident n'a fait fort heureusement aucun blessé. C'était une journée ponctuée de coupures d'électricité hier sur la commune de Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne. Des agents d'Enedis ont passé leur dimanche à résoudre les problèmes qui ont provoqué plusieurs coupures électriques dans divers hameaux de la commune. Suite au décès d'un jeune homme dans la nuit du 10 au 11 décembre dernier, le loft est fermé à la souterraine. La boîte de nuit creusoise est sous le coup d'une fermeture administrative pour un minimum de 2 mois. Âgé de 23 ans, il avait été retrouvé sans vie sur une banquette. L'autopsie a conclu qu'il est mort par asphyxie après s'être fortement alcoolisé. Le gérant du loft conteste cette décision de la préfecture de la Creuse. Un important incendie a détruit une maison hier sur la commune de Monceau-sur-Dordogne en Corrèze. Il a fallu plusieurs heures aux pompiers d'Argentat, Beaulieu, Saint-Privat et Tulle pour maîtriser les flammes. Aucune victime, mais l'agriculteur à qui appartient la maison a dû être relogé le plus proche possible de sa ferme dont il doit continuer à s'occuper. L'agriculture évolue, elle risque même connaître une nouvelle révolution, parfois par la force des choses. Par exemple, le cheptel ovin a baissé de 10% en l'espace de quelques mois. Tony Cornelissen, président de la Chambre d'agriculture de la Corrèze, au micro RCF Limousin de Lucie Montibus au Sullivan.
Tout doucement et progressivement, les agriculteurs diminuent leur cheptel avant de partir à la retraite, diminuent le cheptel parce que il y a plusieurs épisodes de sécheresse, diminuent aussi le cheptel parce que derrière, ils n'ont plus envie d'acheter des intrants. Ils ont aussi des tailles d'exploitation qui agrandissent pour la plupart. Et donc, ils pensent que leur salut viendra de n'avoir moins de travail, moins d'animaux. Sauf que la réalité économique, elle n'est pas du tout là, puisque à chaque fois qu'ils diminuent le cheptel, il y a aussi une fragilité de la situation économique et de l'exploitant d'un côté, et de l'entité du département ou des trois départements du Limousin, dès lors qu'on ajoute ces situations l'une à côté de l'autre.
Des prises, installations, production d'énergie, méthanisation, rémunération, changement climatique, les défis de l'agriculture pour 2023, et pas seulement, sont abordés dans votre chronique du jour présentée par Lucie Montibus O'Sullivan. Son invité est le président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, chronique en diffusion sur votre radio et en réécoute sur legral.info. Enfin, un rapide mot de sport pour signaler le réveil du CAB. Les rugbymen brivistes inversent la tendance en enregistrant une nouvelle victoire face à Toulon, 26-17. Victoire aussi pour le CSP. Après un premier quart-temps difficile, les basketteurs limougeaux ont battu Bourg-en-Bresse 76-68. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à tous.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Oui, vous êtes ici sur Bram FM au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, ce sera la chronique en Limousin, suivie de la météo de demain à 13h55. Pour l'heure, à 13h, passé de 36 minutes, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Isabelle. Bonjour.
Ouais, bonjour. Bonjour.
Alors, en ce début de semaine, vous voulez nous faire découvrir ou redécouvrir un titre de votre choix.
Ouais, exactement. Il y a 13 ans, aujourd'hui, pas jour pour jour, mais presque, sortait le disque mythique des Roots, How I Got Over. Donc en 2010, année de ce 9e album de leur discographie, qui les fait non pas entrer dans l'adolescence, notion purement occidentale, ni même sauter de plein pied dans l'âge adulte, mais plutôt passer musicalement d'une période glorieuse à une étape culte. En effet, ce pas est franchi avec ce disque-là. The Roots, ce groupe légendaire d'activistes du hip-hop originaire de Philadelphie, mené par Questlove et Black Thought, n'a fait que de se bonifier au cours du temps, un peu comme le mille et une pierres, mais en mieux quand même. L'aventure de ces dingos de samples mélomanes fondus de funk, de soul, de jazz et de rock a débuté en 87, le premier album en 93. Ils sont aussi d'excellents musiciens, outre le fait d'être un fan de Prince sans doute le plus incollable du monde. Questlove est un époustouflant batteur. How I Got Over est un disque somptueux et complexe qui semble trouver toute son inspiration dans une sorte d'existentialisme. Les Roots savent se renouveler et n'ont jamais cessé de le prouver. Pas seulement car ils savent puiser du sol une certaine histoire, sans mauvais jeu de mots, de la musique, pour en faire naître quelque chose d'autre. Je pense par exemple au sample de McCartney ou de Fatback Band qu'on trouve sur cet album. Mais aussi par leurs multiples collaborations avec des artistes de tous horizons, Mos Def, Al Green, Vernon Redd ou Elvis Costello, pour n'en citer que quelques-uns. Et bien sûr, l'inventivité qui leur est propre. How I Got Over reste encore bougrement créatif aujourd'hui, 13 ans après sa sortie. Je vous invite à l'écouter dans son intégralité. Et pour illustrer cette petite chronique, je vous ai choisi quand même un petit extrait. Ça n'a pas été une mince affaire au milieu de 14 titres. Now or Never, qui figure sur cet album, c'est maintenant ou jamais, on écoute les Roots. One thing.
change. Finally breaking the chains. Every phase, every happening crazy. When it's said and done, my head is right back in the haze. I'm ready for the next chapter and page to start acting my age and part ways with black thought from back in the days. I'm stargazing from the back of the stage, questioning if who y'all praise is worthy of praise. What's the phrase? Bygones is bygones. Niggas who used to be the underdog is icons. People say the light shines once in a lifetime. Is this midlife kind of crisis a little bit like mine? I'm thinking not now, but right now. I need some kind of sign that the future is bright now. I fuck around, do the right thing like Spike now. The quick and the dead, which one is my lookalike now? I'm moving ahead.
Sunniest days of my life, I cried through them. Moms was out the picture, and pops, I barely knew them. And I would pray to God, but I'm tired of lying to them. Tired of trying to run from the things inside of us. Got a lot of fam and a lot of admirers who tell me that I should aspire to be changed. But when I think of changing, it's like, why even try this shit? My mind hazy and my thoughts, they get distorted. I know my good and bad deeds both get recorded. You do right so your soul can last. But my role was cast before I even auditioned for it. So I don't really see an end of my vice. It's just false reformation, no end of my strike. Feel the evil overpowering. You can go ahead, throw the towel in. Cause nigga, that's the end of the fight. When you can only see the tunnel at the end of the lights. Lights out, party over, it's the end of your life. And I'm out.
Everything's changing around. Something I wanna see, but something that's resistant. And every day the heartin' is growing more persistent. I never noticed it before, but now I can't miss it. And the constant pound is driving me ballistic. I ran from it for years, but it's still next to me. And it's growing stronger, taking, leaving less of me. I can't fight it now, I know it's just destiny. And I just wonder what's gonna happen when it catches me. Will it leave me face down in the Chesapeake? Or will it just start bringing out the best of me? But is the best of me really just the worst of me? And if so, yesterday could be my anniversary. And since it's court, sit port and have church with me. I'm trying to get rid of these ghosts that's cursing me. I feel a change is an absolute certainty. Cause what's going on is a state of emergency. Everything's changing around me. And I wanna change too. It's one.
Les Roots avec le titre Now or Never. Enfin, quand on dit Les Roots comme ça, ça fait très babos, mais en vrai,
je sais pas.
Quand même du hip-hop.
Ça peut faire, ça sent vraiment la Jamaïque aussi, Les Roots.
Hein. Ouais. C'est... Mais d'ailleurs, tout à l'heure, t'as fait un petit jeu de mots, mais peut-être il faut rappeler ce que ça veut dire Roots en anglais.
Ouais, ça veut dire racine.
Voilà.
Voilà.
Donc t'as dit qu'ils étaient bien ancrés.
Voilà. très, ils puisent des choses du sol. Mais c'est carrément un terme qui est rentré dans le français quand on dit que c'est très Roots.
Oui, mais il y a peu de gens. Enfin, pas peu de gens, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on est très français.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que c'est important de leur dire.
C'est vrai, c'est vrai.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure,
on se retrouve à 13h55 dans votre tenue de Miss Météo. Merci beaucoup. Pour l'instant, on va parler de pommes de terre. Il est 13h44. Vous êtes ici sur Bram FM et c'est Joël qui nous en parle.
Bonjour Ève, bonjour les brameuses, bonjour les brameurs. Aujourd'hui, la tambouille de Joël va vous conter l'origine d'un produit qui meuble nos assiettes depuis des siècles. La pomme de terre, plus communément appelée la... patate. Originaire d'Amérique du Sud, la pomme de terre fut introduite d'abord en Espagne sous le nom de patata. N'est-ce pas, Eve ? Elle se diffuse timidement vers l'Italie, puis vers le sud de la France et l'Allemagne. C'est en Ardèche que l'histoire de la pomme de terre connaît un tournant. la plante produisant les tubercules de pommes de terre aurait été cultivée pour la première fois en Europe vers 1540. L'histoire de la pomme de terre se poursuit en Europe au milieu du XVIe siècle, où elle fait son entrée en Angleterre. Elle a eu de la chance, il n'y avait pas encore le Brexit. C'est d'ailleurs de ce pays qu'elle partira coloniser l'Amérique du Nord. Elle est ensuite introduite en France dès le début du XVIe siècle. La pomme de terre s'implante assez rapidement à partir de 1618 dans la plupart des pays d'Europe, grâce, si l'on peut dire, à la guerre de 30 ans. Mais elle est longtemps boudée en France. En effet, à l'origine, on l'a considérée comme toxique. Surprenant, n'est-ce pas? C'est pour cela que la pomme de terre était réservée à l'alimentation des animaux. Pendant longtemps, les pommes de terre sont consommées bouillies ou rôties. La première recette connue est allemande et date pourtant de 1581. C'est à peu près celle des rôtis actuels et plusieurs modes de préparation, plus savoureux, sont cités en Belgique au cours du XVIIe siècle. En 1865, le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas présente 15 recettes de pommes de terre. Dès le XIXe siècle, la pomme de terre a gagné. Elle est sur toutes les tables, des plus populaires aux plus bourgeoises et dans les meilleurs restaurants. Elles ne les quitteront plus, renouvelant sans cesse leur présentation et leur préparation. Sa production passe de 1,5 million de tonnes en 1803 pour devenir 16 millions de tonnes à la fin des années 30. Après la guerre, une production record est atteinte en 1960 avec environ 14 millions de tonnes récoltées. La production est aujourd'hui de 5 à 6 millions de tonnes selon les années, ce qui reflète plus ou moins les habitudes alimentaires de notre société actuelle. Caractéristiques de la pomme de terre, et notamment ses valeurs nutritionnelles. Elle est riche en glucides, ce qui, d'un point de vue nutritionnel, la classe dans la catégorie des féculents. Elle se cuisine d'une multitude de façons et la grande diversité de variétés permet de varier les cuissons et les saveurs. Elle est riche en fibres, antioxydants, vitamines du groupe B, potassium, manganèse. Les différentes variétés de pommes de terre. Il existe plus de 150 variétés de pommes de terre différentes. On en retrouve une vingtaine sur nos étals qui sont classées en fonction de leur type de chair et de leur utilisation culinaire. Les pommes de terre à chair ferme, Amandine, Charlotte, etc. à chair fondante, Agatha, Mona Lisa, à chair farineuse et les originales, Vitelotte, Bleu d'Auvergne. L'achat des pommes de terre. Achetez de préférence des variétés à chair jaune, rouge ou bleue, qui sont plus riches en nutriments que la pomme de terre blanche. Il faudra peut-être aller au marché pour les trouver, car elles sont encore rares dans les épiceries. Recherchez les variétés à petits tubercules allongés, telles la rate, la banane, la pomme de terre virgule. Personnellement, je les cuis souvent avec la peau, rôtie, à la vapeur. Pour la conservation, gardez les pommes de terre à l'obscurité, au frais et au sec. Évitez le réfrigérateur, les températures froides, ayant pour effet de transformer l'amidon en sucre, un trait peu désirable en cuisine. La préparation de la pomme de terre. Alors ça, c'est plutôt pour les cuisiniers en herbe ou les cuisinières en herbe. Comment la cuisiner, comment la sortir? Au four, en robe des champs, farcie de crème et de ciboulette hachée. À la hongroise, pourquoi pas, farcie d'une sauce au yaourt, bouillon de poulet, paprika, sel et poivre. Les frites au folie, découpées en bâtonnets de différentes grosseurs, rôtissez-les au four après les avoir badigeonnées d'un peu d'huile d'olive et d'épices. Râpez-les crues, façonnez des galettes que vous ferez cuire comme des crêpes, ce qu'on appelle bien sûr les rôtis. En purée, un classique pour les enfants, avec du beurre, du lait, de la crème, un peu de zeste de citron, de l'ail et du persil. Dans les soupes. Alors, moi, les soupes, mon élément de base, c'est toujours donc oignon, pomme de terre. Ça, c'est un classique. Ensuite, un élément supplémentaire. Longtemps en Europe, la pomme de terre a été essentiellement consommée de cette façon. Servez-la chaude ou froide, garnie de ciboulette ou de cresson ciselé. En raison de sa richesse en amidon, la pomme de terre permet de donner de la consistance à n'importe quelle soupe un peu trop claire. En salade parisienne, faites-les cuire à l'eau salée. Émincez-les chaudes et marinez-les au vin blanc sec. Au dernier moment, assaisonnez à l'huile, au vinaigre et saupoudrez de persil ou de cerfeuil haché. on peut créer des dizaines de salades à base de pommes de terre. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le point sur un élément de la cuisine française qui est très important, donc la pomme de terre, qu'on oublie de temps en temps, ce qui est un peu dommage. On peut en faire beaucoup de choses, et c'est un de mes ingrédients préférés à la tambouille de Joël. Voilà, Eve, je te souhaite une bonne semaine et à bientôt.
Merci beaucoup Joël de nous avoir rappelé ce merveilleux ingrédient qu'est la pomme de terre. Il est 13h passé de 50 minutes, vous êtes ici sur Bram FM. On est ensemble jusqu'à 14h en direct. Pour l'heure, c'est l'heure de la chronique en Limousin. Et juste après, Isabelle viendra vous donner le temps de demain. A tout de suite.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine. Le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Bonjour à tous, la nouvelle année s'annonce sur la nécessité de retrouver une autonomie vivrière en France. Première ferme d'Europe, deuxième région bio, la Nouvelle-Aquitaine a 200 exploitations avec une grande diversité de production. Alors on en parle avec Luc Servant, président de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Bonjour.
Bonjour.
Alors une production végétale qui représente 69% de l'agriculture contre 31% pour la production animale, le Limousin reste axé sur la production animale. La région est-elle prête à tous les changements qui l'attendent en cette année 2023 ?
Alors beaucoup de changements attendent effectivement l'agriculture après l'année 2022 que l'on vient de vivre, notamment sur la question du changement climatique où on a vu là il y a des évolutions importantes à mettre en œuvre pour que les exploitations agricoles s'adaptent à ce changement climatique. Et on voit que le contexte économique aussi peut être très changeant, très fluctuant, un impact fort. Et puis je crois qu'il y a toute la question aussi de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire, dont on sait combien c'est important, et de pouvoir aussi produire à des prix qui permettent aux consommateurs, aux citoyens, de pouvoir acheter aussi les produits agricoles locaux et français.
C'est l'agriculture de qualité qui est un fer de lance actuellement en Nouvelle-Aquitaine, avec 41 indications géographiques de qualité, 70 labels rouges, 67 appellations d'origine protégée viticole. La région Nouvelle-Aquitaine a quand même un bel atout devant elle.
Alors la production de Nouvelle-Aquitaine s'est beaucoup centrée sur la montée en gamme, sur ces produits de qualité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une demande, il y a un marché, qui ça permettait aussi de répondre à la demande et aux attentes du consommateur de retrouver des produits de qualité. Par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces produits ont aussi un prix plus élevé et que le consommateur, le citoyen, n'a pas toujours les moyens dans les choix qu'il doit faire aujourd'hui, dans les arbitrages qu'il doit faire économiques aujourd'hui. Il n'a pas toujours les moyens de pouvoir acheter ces produits et ça pose parfois la question de la durabilité de ces filières. On souhaite, nous, vraiment avoir cette montée en gamme, faire de la production de qualité, mais y aura-t-il toujours le marché en face, justement, pour permettre de rémunérer correctement le producteur ?
Au niveau environnement, on assiste quand même à une sorte de quadrature. La crise économique énergétique a fait que certains engrais ne sont plus achetés actuellement. Les agriculteurs seraient-ils devenus biologiques par nécessité ?
Alors dans les transitions à venir, justement, on s'aperçoit aussi qu'il faut qu'on soit moins dépendant des engrais extérieurs, de l'énergie extérieure. Et ça fait partie du travail que l'on doit mener dans les exploitations agricoles. Comment rendre notre production moins dépendante, justement, de tous ces facteurs. Pouvoir produire sur place de l'azote pour remplacer les engrais azotés, pouvoir produire de l'énergie sur les territoires, ça fait partie de toute la transition qu'il y a à faire. Et là, on est vraiment sur du long terme. Puisqu'on voit bien que de toute façon, cette question se posera de plus en plus à l'avenir. Et donc, on doit accompagner les agriculteurs dans ce sens-là.
Et puis, une autre nécessité, c'est qu'on assiste à une déprise agricole. La loi transmission va demander peut-être une prise en charge des agriculteurs. Quelles vont être justement les demandes au niveau des agriculteurs pour faciliter la transmission ?
Alors, il faut qu'on installe aujourd'hui plus de jeunes en agriculture et donc tout le travail qui va être mené dans le cadre de la prochaine loi d'orientation agricole à venir, c'est vraiment mettre l'accent sur l'installation de nouveaux jeunes. Mais on voit qu'on va être sur des systèmes d'installation très différents. À la fois, il y a la production de biens alimentaires avec la question justement du prix et du coût de revient, mais aussi d'autres missions que peuvent mener les agriculteurs pour de services rendus à l'environnement, à la biodiversité, au territoire, au paysage. Il faut qu'on trouve des systèmes de rémunération là-dessus. Question du changement climatique, de la captation du carbone. Et donc là, aujourd'hui, tout le travail consiste à trouver des façons de rémunérer ces services rendus par l'agriculture et de pouvoir les intégrer dans un projet de jeunes agriculteurs qui s'installent. Il y a la production alimentaire, mais il y a aussi la production d'autres services environnementaux rendus par l'agriculture.
Il y a une grande disparité d'entreprises de méthanisation en Limousin. Par exemple, en Corrèze, il y en a beaucoup plus qu'en Creuse et en Haute-Vienne. Comment on explique ça ?
Alors, d'une part, la méthanisation se met en place sur les secteurs où il y a aussi la matière première, hein, soit les effluents d'élevage, soit d'autres déchets agroalimentaires, d'autres déchets végétaux. Ça fait partie de la première nécessité. À la Chambre d'agriculture, on est là pour accompagner les projets, accompagner les agriculteurs, soit sur des projets individuels, soit sur des projets collectifs. Faut déjà monter le projet. Il y a toute la question des autorisations, trouver la matière première, avoir l'assurance d'avoir justement cette matière première sur la durée, pour que le projet tienne dans la durée. Et puis après, voir si on injecte le gaz dans le réseau ou si on transforme ce gaz. Et là, voir comment on valorise la chaleur qui peut être dégagée par de la production de serres chauffées, par exemple, par du séchage de foin, par du chauffage d'équipements publics aussi, ce qui peut exister. Donc il y a tout l'environnement du projet. Et là, la Chambre d'agriculture, avec le réseau et l'expérience qu'on a, on peut vraiment accompagner les agriculteurs dans ce sens-là.
Luc Servant, vous êtes président de la Chambre d'agriculture régionale Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup.
Merci.
Pour le Graal, Lucie Montibus-O'Sullivan, RCF Limousin.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h, mais pour l'heure...
Les Stranglers, alors.
Ça faisait longtemps,
ouais,
hein.
Ouais. Alors, je dis pas bonjour parce que je suis déjà venue tout à l'heure.
Rebonjour, alors.
Je redis bonjour. Rebonjour.
Rebonjour, Miss Météo.
Ça va toujours, hein?
Bah, ouais, moi, ça va. Ouais, plutôt
ça a l'air. Hein.
Et vous?
Bah, toujours bien. Même de mieux en mieux.
Bonheur.
Alors je vais vous parler un petit peu de la météo et puis je vais citer notre collègue Fabrice qui m'a soufflé aux oreilles ce matin une petite expression qui m'a bien plu pour la météo. Il a parlé d'une météo aqueuse. C'est complètement original parce que j'ai jamais entendu.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein?
Cette expression pour parler de la météo, bah c'est une météo liquide, aqueuse donc, et il a raison parfaitement, Fabrice. Hein, spécial dédicace pour toi, mon petit gaillard. Une météo aqueuse pour demain, mardi 10 janvier, mais des températures plus douces. En effet, un front chaud devrait arriver en début de matinée demain. Front qui devrait maintenir des faibles pluies qui se calmeront dans l'après-midi, malgré quand même un ciel qui restera chargé et encore quelques petites gouttes possibles. Donc effectivement, Fabrice a raison sur toute la ligne, météo aqueuse toute la journée. Il fera plus doux qu'aujourd'hui puisqu'on attend dans la matinée de 2 à 6 degrés du nord au sud du département. Le département de la Corrèze, je le rappelle, nous ne sommes pas dans la Somme ni dans le Var, hein, nous sommes en Corrèze. Nous ne sommes pas dans les Côtes d'Armor, nous ne sommes pas non plus en Vendée. Voilà, et j'arrête là, pourtant j'aurais bien envie de continuer mon gag à répétition, mais qui ne fait peut-être pas marrer tout le monde. Donc je continue sur les températures de l'après-midi, au meilleur de l'après-midi. Eh bien, combien fera-t-il en Corrèze et pas en Vendée ni dans les Côtes-d'Armor?
12.
Eh bien non, il fera 5 degrés à Ussel et à Traignac, 6 à Égletton, 8 degrés à Userche et une maximale de combien?
11.
Non, 9 à Tulle, Brive, Argentat et Beaulieu-sur-Dordogne. 11, bah ouais, ce serait pas mal, quoique
le réchauffement climatique, mais c'est l'hiver, ça me fait
un peu flipper. Mais ouais. Mais c'est quand même au-dessus des normales de saison, hein, je tiens à le dire, hein, c'est important.
Bah oui. Je vois mon tas de bois qui ne baisse pas, comme ça doit être le cas pour tout le monde.
Moi, il baisse quand même, mais pas beaucoup.
Tranquille.
Tranquille.
Il baisse pour faire sécher le linge, quoi.
Ah voilà, c'est ça en fait, pendant la nuit, ouais.
Merci beaucoup, ouais. Miss Météo.
Je vous dis à demain pour une météo peut-être aqueuse ou pas, hein. Là est la question, je vais demander à Fabrice quand même. À demain.
À demain. C'est la fin de ce direct. Un grand merci à la base, à Jeanne et Mathy. Merci à Aude Gérardin. Merci à Isabelle et Joël. Si vous avez manqué cette émission et que vous souhaitez la réécouter et la partager, allez sur notre site internet bramfm.com. Dans l'onglet Vous êtes ici, vous retrouverez tous les podcasts de cette émission et puis aussi d'autres podcasts, d'autres émissions de Bram FM. La suite du programme sur Bram FM à 14h dans 1 minute 15, ce sera l'émission Métaclassique. Et à 17h24 précisément, ce sera Un autre monde. Moi, je vous retrouve demain avec plein de gens et le programme est chargé. Ça fait beaucoup rire, Isabelle, mais je déconne pas, le programme est chargé demain. Donc, restez bien à l'écoute de Bram FM et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi sur notre antenne.